Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À la rentrée, pendant la semaine du 10 au 17 septembre, Roy Malmaison se mettra aux couleurs du Premier Empire pour une grande manifestation intitulée le Jubilé Impérial. Franck Ferrand aime la Malmaison. Il avait, il y a quelques années, présenté d'ailleurs une émission in situ. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous vous rappelez cette émission?
Bien sûr.
C'est vrai que j'aime la Malmaison. J'aime celle dont le souvenir aussi hante encore chaque salon, chaque allée de cette sublime propriété. Je veux parler bien sûr de l'impératrice Joséphine, à qui cette émission sera dédiée. Dès qu'on parle de Joséphine, on a l'impression que l'atmosphère s'allège d'un seul coup. Les murs de ce studio sont en train de se parer de belles soieries. On y sent un parfum de rose et l'on croit deviner là, juste derrière la porte, le rire en cascade de la belle créole.
Et vous allez commencer par la fin, si j'ai bien compris.
Ben oui, je voudrais vous raconter tout de suite l'épisode le plus déchirant de la vie de Joséphine, ce divorce avec l'empereur. Nous aurons ensuite tout le temps de revenir sur l'incroyable destinée de cette femme hors du commun.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avant que nous ne nous rendions à la Malmaison, imaginez un peu le Grand Trianon dans le parc de Versailles. Grand Trianon qui est là sous la pluie froide de Noël. On est le 25 décembre 1809. Cela fait une bonne semaine que l'empereur s'est installé dans l'ancien appartement de Madame de Pompadour. Il passe ses journées notamment dans le salon des sources à fixer le feu dans l'âtre. Il regarde les flammes qui dansent. Soudain, on entend un peu d'agitation, des berlines qui remontent l'avenue de Trianon. C'est l'impératrice Joséphine qui arrive de Rueil, qui arrive de la Malmaison avec quelques familiers pour le repas de Noël. Il y a notamment les enfants qu'elle a eus d'un premier mariage, Joseph de Beauharnais, roi de Wurtemberg, et la reine Hortense. Napoléon les accueille. Joséphine sourit. Elle a toujours cet air d'aisance qu'elle promène partout avec elle. En vérité, elle brave. Elle donne le change. Car son cœur, à ce moment-là, n'est que douleur et amertume. L'empereur et elle viennent de divorcer. Alors pour prendre la mesure de cet événement, pour se faire une idée de l'importance extraordinaire qu'a pu occuper Joséphine dans la vie de Napoléon, la place très importante qu'elle a pu y occuper, il faut revenir sur un certain nombre d'éléments essentiels. Nous parlerons tout à l'heure de la vie de Joséphine. Nous verrons qu'elle avait 6 ans de plus que Napoléon Bonaparte. En 1796, elle avait épousé civilement. Il faut dire qu'elle était une rescapée de la terreur. Vous savez, elle faisait partie de ces rescapés de Thermidor. Elle était la veuve du vicomte de Beauharnais, qui lui avait donc fait 2 enfants. Mais d'enfants, elle n'en avait pas donné à Napoléon. Et ça, c'est tout le problème, car ce qui se pose à partir de 1804-1805, c'est la question de l'avenir d'une dynastie impériale. Elle avait eu beau soutenir Joséphine et accompagner et constamment suivre la carrière de son mari, elle n'était plus en mesure d'assurer la suite dynastique. Elle l'avait épousé religieusement le 1er décembre 1804, dans des conditions d'ailleurs assez extraordinaires. Vous savez que le pape était à Paris pour le sacre qui devait avoir lieu le lendemain, et juste in extremis, juste à la veille du sacre, il s'était marié religieusement. Les vieux fidèles disaient que l'impératrice portait chance à Napoléon et que si elle s'en allait, rien ne serait plus comme avant. Alors, Comment Napoléon en est-il venu à prendre cette décision, à franchir le pas, à répudier Joséphine? C'est toute une longue histoire. Déjà à l'été 1807, on est là dans la grande période du règne, au moment de la gloire de Tilsit. Déjà, Napoléon était rentré à Saint-Cloud dans un étrange état d'esprit. Mademoiselle de Noël venait de lui donner un fils, Léon, le futur comte Léon. Vous savez, il était animé de doutes, Napoléon. Il était à ce moment-là amoureux de Maria Walewska, la ravissante polonaise. Et il faut dire qu'à ce moment-là, le petit Napoléon, qui était le fils de son frère Louis, était mort, et que le deuxième fils de la reine Hortense était malade. On avait donc un certain nombre d'incertitudes sur la continuité dynastique. Napoléon a parlé à Joséphine, à ce moment-là, on est donc à l'été 1807, de la nécessité où peut-être un jour il pourrait se trouver de prendre une femme qui lui donnerait des enfants. Évidemment, pour Joséphine, c'est une épée de Damoclès qui désormais va planer constamment, va être constamment tendue au-dessus de sa tête. À l'automne 1807, à Fontainebleau, l'ennui s'était emparé de la cour. C'est Talleyrand, vous savez, qui disait « le plaisir ne se mène pas au tambour ». Et il est vrai que Napoléon était beaucoup plus doué sur les champs de bataille que dans les salons de la cour. Pendant cet automne 1807, à Fontainebleau, on avait vu Joséphine trembler devant l'arrivée d'une rivale, Carlotta Gazzani, qu'elle avait dans un premier temps interdit de salon, avant peu à peu de l'adopter, si je puis dire, pour faire contre-feu à la Walewska dont on sentait chaque jour monter la faveur. En octobre, Fouché était allé carrément demander à Joséphine si elle était consciente de la situation dans laquelle elle plaçait l'Empire, et il lui avait demandé de faire elle-même la démarche et de demander le divorce à l'empereur. C'est un excès de zèle, dira Napoléon. Néanmoins, il n'est pas allé jusqu'à désavouer Fouché, ou plutôt, s'il l'a désavoué, il n'est pas allé jusqu'à le renvoyer. Plus tard, à Sainte-Hélène, il dira « Je l'eusse renvoyé sur le champ pour s'être mêlé de ce qui se passait dans mon lit, si cela n'eût paru vouloir rejeter une opinion qu'il m'importait plutôt d'accréditer. » Et c'est ça le fond de l'histoire. C'est que, au fond de lui-même, Napoléon veut qu'on comprenne qu'il a besoin d'un descendant, qu'il a besoin d'inscrire sa dynastie dans la durée, et que dans la mesure où Joséphine ne peut pas lui donner d'enfant, elle devient un obstacle à la continuité dynastique. Et dans toute la France, dans tout l'Empire, on ne parle déjà plus que de cela. Lorsque Napoléon rentre d'Italie le 1er janvier 1808, il se montre curieusement un peu mieux disposé. Il va rendre à David une visite, le peintre David qui est en train de mettre la dernière main à son célèbre tableau sur le couronnement de l'impératrice, ne l'oublions pas, car c'est le véritable thème de ce tableau-là. Joséphine n'en est pas moins inquiète, très inquiète, elle est constamment plus ou moins malade, et de son côté, le prince Murat travaille son impérial beau-frère en faveur d'un divorce. Napoléon vacille. En avril, en voyant Hortense de Beauharnais enceinte, et elle est enceinte du petit Louis-Napoléon qui un jour sera Napoléon III, « Cela me fait mal de vous voir ainsi, lui dit-il, que j'aimerais votre mère si elle était dans cet état. » Et oui, si seulement Joséphine pouvait lui donner un enfant. Joséphine, de son côté, s'applique à maintenir son train de vie habituel. Et quand l'empereur passe la nuit chez elle, elle essaie de faire comme si de rien n'était. Or, en septembre 1809, l'empereur, Napoléon, apprend que Marie Walewska est enceinte, qu'elle est enceinte de lui, que c'est pour mai 1810. Cette fois, il en est sûr et certain, c'est bien Joséphine qui est devenue stérile. Certes, elle a eu des enfants d'un premier mariage, mais elle ne pourra pas lui en donner à lui, alors que lui n'est pas stérile. Il avait déjà eu le petit Léon, le fils de la Denuel, et puis maintenant, il attend cet enfant de Maria Walewska. Les doutes qui taraudaient l'empereur quant à sa capacité à procréer se sont envolés, et maintenant il en est certain, il doit donner un héritier à l'Empire. Thank you.
extrait sur Europe 1 de la sonate numéro 5 pour violon et piano de Beethoven, Franck.
Dieu m'est témoin, dit Joséphine, que je l'aime plus que ma vie et plus que ce trône. Ce n'est pas, on peut dire, pour Joséphine, c'est un moment extrêmement, extrêmement dur, évidemment. Et pour l'empereur aussi, car lui aussi l'aime. Et il l'aime lui aussi, probablement plus encore que son trône. Simplement, il y a là le devoir de l'État. L'empereur fait savoir à Joséphine qu'il sera à Fontainebleau du 26 au 28 octobre. On est donc en 1809. Joséphine se met en route et elle le retrouve à Fontainebleau. Elle arrive de nuit à 6 heures et Napoléon, qui avait l'habitude de s'avancer vers elle, hein, d'aller au-devant de l'impératrice, cette fois l'attend dans la bibliothèque. « Ah, vous voilà, madame, lui dit-il. Vous faites bien car j'allais partir pour Saint-Cloud. » Il lui reproche de n'être pas arrivé assez vite. Elle veut s'excuser. Seulement elle sent à ce moment-là les larmes lui monter aux yeux, sa gorge se serrer. Assurément, elle en est certaine. Napoléon a pris sa décision et reste à savoir quand il va le lui annoncer. Les jours passent, ce sont des journées extrêmement tendues, vous imaginez. Et puis finalement, le soir du jeudi 30 novembre, le souper est extrêmement silencieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une atmosphère très lourde. Joséphine a pleuré pendant toute la nuit. On n'entend rien, nous dit Constant, que le bruit uniforme des assiettes apportées et remportées, tristement variées par la voix monotone des officiers de bouche. Et Napoléon ne pose qu'une question au cours de ce souper. Il dit « Quel temps fait-il ? » Vous voyez, on entendrait, comme on dit, une mouche voler. Et puis finalement, l'empereur s'isole avec l'impératrice et il finit par lui expliquer « La raison d'État et la consolidation de ma dynastie veulent que j'aie des enfants. Tu as les tiens, mais quand je t'ai épousé, tu n'étais plus capable d'en faire. Il n'est point juste que tu me prives de ce que désirent tous les hommes. » Joséphine ne sait rien répondre, elle ne fait que pleurer finalement. Il prétend souffrir davantage. Il dit qu'il souffre plus qu'elle. « Puisque c'est moi qui afflige, dit-il, c'est bien normal que je souffre davantage. Non, tu ne le feras pas, supplie Joséphine, tu ne voudras pas me faire mourir. Ne cherche pas à m'émouvoir, répond l'empereur, je t'aime toujours, mais la politique n'a pas de cœur, elle n'a que de la tête. Je te donnerai 5 millions par an et une principauté dont Rome sera le chef-lieu. » Et Joséphine sanglote, « Non, je te supplie de me laisser en France, pas trop loin de toi. » Et là, Napoléon reprend, le divorce est nécessaire, il se fera parce que je le veux. Maintenant, il y a deux manières de le faire, avec ou sans ton consentement. Choisis, je crois que tu n'as pas de motif d'hésiter. Et finalement, bien sûr, ce divorce va se faire. Joséphine, évidemment, est complètement bouleversée, mais je crois qu'on peut dire que l'empereur l'est encore plus. Le divorce est devenu un devoir rigoureux pour moi. Je la plains de toute mon âme, dit-il. Je lui croyais plus de caractère et je n'étais pas préparé aux éclats de sa douleur. Le 15 décembre de cette fatidique année 1809, on emporte des Tuileries les mâles de Joséphine. Il y a soudain un silence dans la cour des Tuileries et l'on voit l'impératrice qui apparaît. Elle a le visage dissimulé sous un voile. Elle est au bras de Madame d'Arnberg. Elle est suivie par sa fille Hortense et on la voit monter dans une haute voiture chargée de dorures. Cette voiture s'appelle l'Opale. Les stores ont été blessés. Le fouet claque. Le carrosse s'éloigne. Il va regagner la Malmaison.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec un récit consacré aujourd'hui sur Europe 1 à Joséphine et Napoléon, Franck.
Joséphine a donc quitté les Tuileries ce 15 décembre 1809 sous une pluie battante. Et évidemment, Napoléon ne songe plus qu'à une chose, c'est à la revoir, bien qu'il vienne de divorcer. C'est une situation très ambivalente, très, très subtile finalement. Il écrit à Joséphine plusieurs fois par jour, il lui envoie des messagers constamment. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'il ne reste pas aux Tuileries, hein. Il s'en va à Trianon. Il ne veut pas aller à Saint-Cloud, qui lui rappelle évidemment trop de souvenirs. Donc il va dans cette maison assez neutre pour lui de Trianon. Et il écrit à Joséphine, « On me dit que tu n'as plus de courage depuis que tu es à la Malmaison. Ce lieu est pourtant tout plein de nos sentiments qui ne peuvent ni ne doivent changer, du moins de mon côté. J'ai bien envie de te voir, mais il faut que je sois sûr que tu es forte et non faible. Je le suis aussi un peu et cela me fait un mal à affreux. » À Trianon, ses sœurs, Caroline et Pauline, se sont pourtant chargées d'essayer de le distraire. Elles se sont fait accompagner de la jeune et charmante et blonde et assez grosse Christine Matisse, qui est une piémontaise aux seins provoquants et aux cheveux magnifiques. Pauline a préparé la demoiselle à ce qu'il l'attendait, ou en tout cas à ce qu'on attendait d'elle, devrais-je dire. Napoléon n'en est pas moins d'une humeur de chien. Il va chasser du côté de Marly, mais la vérité c'est qu'il n'aime pas la chasse. Et donc, ce fameux 24 décembre, il a invité Joséphine pour le lendemain. Ce sera ce fameux repas de Noël dont je vous parlais tout à l'heure et qui sera un affreux repas de Noël, disons-le. Bientôt, Joséphine prendra le chemin de la Normandie et du château de Navarre, près d'Évreux, dont l'empereur lui a fait don et qu'on a entièrement redécoré. Quand je dis on, c'est l'architecte Berthaud qui s'en est occupé. Il y a une sorte de petite cour qui s'est formée auprès de l'ancienne impératrice qui a gardé son titre du reste d'impératrice des Français. Elle est toujours servie par une maison de 150 domestiques, vous voyez tout de même, hein, tout ça est assez brillant, la cour du château de Navarre, mais brillant et un peu ennuyeux, disons-le. On y mène une vie extrêmement réglée, même si Madame de Rémusat nous affirme que si l'on ne cause guère, on ne s'ennuie jamais près de Joséphine. Était-elle courtisane, cette dame ? Joséphine est de moins en moins tourmentée, elle n'a plus les migraines qui la tenaillaient depuis maintenant des années, elle a simplement mal aux yeux et quand on s'en soucie, elle répond « c'est d'avoir trop pleuré ». On va la voir bientôt voyager, nous allons en reparler en compagnie de nos invités. La fin de sa vie est assez, finalement, est à la fois assez triste et assez sereine néanmoins. Quant à Napoléon, eh bien, dès le 26 décembre 1809, dès le lendemain de Noël, on l'a vu regagner les Tuileries au bras de Christine Matisse. Il reviendra à Trianon 6 mois plus tard, le 28 juin 1810, mais cette fois, il sera au bras de l'impératrice. Quand je dis l'impératrice, c'est la nouvelle impératrice. C'est Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche, la petite nièce de Marie-Antoinette. Que voulez-vous, la raison d'État l'aura emportée dans cette affaire, de quoi lui faire oublier le plus triste Noël de son existence.
Extrait sur Europe 1 de la sonate numéro 5 pour violon et piano de Beethoven. Et nous vous retrouvons, Franck, avec vos trois invités aujourd'hui.
Oui, je suis en très bonne compagnie. À l'époque où Napoléon regagnait les Tuileries, Beethoven était en train de composer cette cinquième sonate pour violon et piano, qui est un des sommets de son œuvre, me semble-t-il. Très bien entouré, vous disais-je, puisque je suis avec d'éminents spécialistes et de Joséphine et de la Malmaison. J'ai l'honneur de recevoir le prince Charles Napoléon. Merci beaucoup, monseigneur, d'être des nôtres. Vous descendez-vous de Jérôme, qui est le plus jeune frère de Napoléon. Et puis, on peut dire les deux piliers de la Malmaison, Bernard Chevalier, qui a présidé aux destinées de ce domaine et de ce magnifique château pendant très longtemps et qui aujourd'hui préside le comité scientifique du fameux jubilé impérial, dont je vous disais un mot et dont nous aurons l'occasion de reparler à la fin de cette émission. Et puis, Amaury Lefébure, qui lui a succédé à la tête de la Malmaison. Une Malmaison où l'on peut dire, Amaury Lefébure, que le souvenir de Joséphine est encore extrêmement présent. On a l'impression de la croiser derrière chaque porte.
On la croise dans Malmaison, derrière chaque porte, peut-être pas, parce que l'impératrice a toujours, dans Malmaison, déambulé de façon extrêmement libre, mais réglée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par un certain protocole, même si après le divorce, ce protocole est plus doux. Aujourd'hui, son esprit est resté dans cette maison qu'elle a marquée de son empreinte. Et les visiteurs, du reste, sont très sensibles au charme qui se dégage de la demeure et qui nous rappelle qu'elle l'a voulu de façon très précise à travers la décoration, à travers l'aménagement du parc autour du château. Et aujourd'hui, on peut retrouver encore tout cela très bien, sinon conservé, du moins remis en état.
Bernard Chevalier, elle a beaucoup voyagé pour essayer d'oublier, pour essayer de penser à autre chose après ce terrible divorce de la fin de l'année 1809.
On a découvert là une impératrice un peu touriste qui est allée en Suisse, en Savoie, qui a même été sur la mer de glace, accompagnée d'une caravane de 80 personnes. Il faut bien ça même pour une impératrice divorcée. Et puis un grand voyage aussi à Milan pour assister aux couches de sa belle-fille qui a donné naissance à une petite Amélie qui deviendra un jour impératrice du Brésil. Et au retour de Milan, apprenant les revers de l'armée française en Russie, à partir de ce moment-là, elle n'a plus bougé, elle s'est vraiment terrée.
Elle se claquemure complètement dans la Malmaison, où elle va d'ailleurs mourir d'un refroidissement lié à la visite de l'empereur Alexandre Ier, si je ne m'abuse.
Oui, alors les habitants de Rueil ont tendance à dire qu'elle a pris froid sur les temps de Saint-Cucufa, mais ça c'est évidemment une petite fierté locale. Elle était avec le tsar Alexandre à Saint-Leu, chez sa fille, la reine Hortense, et c'est là où elle a pris froid, mais elle était déjà mentalement très épuisée, et finalement je pense qu'elle n'a pas lutté contre cette maladie qui l'a emporté en quelques jours.
Et ce qui est terrible, c'est que Napoléon va quitter... À ce moment-là, Napoléon est à l'île d'Elbe, en exil. Il quitte l'île d'Elbe quelques temps plus tard. Vous savez, évidemment, c'est la remontée vers Paris. Ça va être les 100 jours. Et quand il revient à la Malmaison, Joséphine n'est plus là. Et en revanche, son souvenir, lui, est très présent.
Oui, parce que Napoléon est allé à Malmaison après la mort de Joséphine, est allé avec la reine Hortense, s'est enfermé dans la chambre où elle était morte l'année précédente, et Hortense raconte dans ses mémoires que l'empereur avait les yeux remplis de larmes au moment où il a quitté cette chambre. Il avait interrogé la plupart des gens qui avaient assisté à la mort de l'impératrice, du médecin, au valet de chambre, au jardinier, pour avoir au moins quelques détails sur cette fin brusque.
Que pense-t-on, Charles Napoléon, que pense-t-on dans la famille impériale de la malédiction en quelque sorte? Est-ce qu'il est vrai que Joséphine portait chance en quelque sorte à Napoléon?
Ah, je crois que les vieux fidèles que vous avez cités tout à l'heure avaient raison. Joséphine a été l'étoile qui a porté bonheur à Napoléon pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que en définitive, elle était son négatif. Elle lui apportait le complément de ce qu'il n'était pas, et en contrepartie, elle le laissait être ce qu'il était lui-même. Donc il y avait d'un côté le génie politique et militaire de Napoléon Bonaparte, mais aussi de l'autre côté, cette relative immaturité psychique et psychologique d'un homme qui était toujours à la recherche de lui-même et de la définition de sa propre légitimité. Et d'une certaine manière, au travers de cet amour qu'il a connu, de cette passion y compris charnelle, qu'il a connu donc lorsqu'il a rencontré donc Joséphine, eh bien il a pu compléter ses faiblesses et être vraiment lui-même.
Alors justement, comment se sont-ils rencontrés, aimés, comment se sont-ils mariés et quelle vie ont-ils mené tous les deux? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Nous prenons la direction de la Malmaison aujourd'hui sur Europe 1 pour vous raconter maintenant la très belle histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon, Franck.
Alors justement, Amaury Lefébure, faut-il dire, juste une petite précision de vocabulaire, faut-il dire la Malmaison ou Malmaison?
Sous l'Empire, on disait Malmaison sans l'article, parce que c'était le palais impérial de Malmaison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit indifféremment la Malmaison, qui était le nom plus ancien, et Malmaison.
C'est ça. Donc c'est le nom du lieu, c'est la Malmaison, et le nom du palais, c'est Malmaison, en quelque sorte. Bon. Alors, nous en parlerons de ce lieu merveilleux dans un instant. Ce que je voudrais que nous fassions tout de suite, c'est revenir à la rencontre entre le général Bonaparte et cette veuve qu'est Joséphine de Beauharnais à l'époque. On est dans la période assez leste, c'est le moins qu'on puisse dire, du Directoire, Bernard Chevalier.
Oui, en fait, Joséphine, quand elle rencontre Bonaparte, a déjà vécu plus de la moitié de sa vie. Elle a 32 ans, c'est une femme d'ancien régime qui n'a que 8 ans de différence avec la reine Marie-Antoinette, donc qui est complètement ancrée dans le XVIIIe siècle et qui, étant veuve, a besoin d'un protecteur. Donc elle cherche évidemment un militaire, puisque c'est une femme déjà de militaire. Et le hasard lui fait rencontrer ce jeune général corse qui est plus jeune qu'elle, qui l'amuse. Donc elle cherche un protecteur, mais ce qu'elle n'avait pas prévu du tout, c'est que le mari allait tomber amoureux. Ce qui, évidemment, pour une aristocrate d'ancien régime, fait un peu bourgeois.
Mais oui, c'est pas tout à fait, c'était pas prévu dans ses plans.
Du tout.
Elle est quand même très libre de mœurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Joséphine.
Mais vous savez, quand vous êtes enfermé pendant 3 mois dans les prisons de la terreur et que tous les matins, le gardien de la prison...
Et vous pensez que vous allez mourir d'une heure à l'autre.
Voilà, on amène la liste des gens qui vont passer à la conciergerie, qui est l'antichambre de la guillotine. Eh bien, comme on dit maintenant vulgairement, on sort de là et on a envie de vivre. On s'éclate, réellement. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a vécu dans les salons du directoire, comme une égérie, entourée des gens les plus importants de son temps.
Amaury Lefebure, un mot peut-être de la Martinique et de ses origines.
Alors c'est vrai qu'elle est née à la Martinique. Je ne dis pas la date parce qu'on ne donne pas l'âge des dames.
C'est de l'histoire, là, en l'occurrence.
Oui, on a dit qu'elle avait 6 ans de moins que Napoléon.
Qui lui est née en 69.
Oui, c'est ça.
Elle y a grandi.
Elle avait 6 ans de plus.
6 ans de plus.
De plus que Napoléon, oui, c'est ça.
Oui, vous voyez, elle me trouble. Elle a grandi à la Martinique. Elle a vécu une vie d'une jeune fille de la société créole, c'est-à-dire qu'elle a été élevée en fait chez les sœurs de la Providence à Fort-de-France. Elle a reçu du reste sûrement une assez bonne éducation qui lui a servi par la suite. Et c'est vrai qu'elle a gardé le goût de son sol natal à travers les plantes rares qu'elle a fait venir à Malmaison, à travers son goût aussi pour les animaux exotiques. Donc la Martinique est pour elle quelque chose de très, très présent et ses habitants aussi. Quand elle écrit à sa mère, elle s'inquiète toujours de la santé de tous les gens qui travaillent sur le domaine.
Dans sa façon d'être, de vivre dans le décor dont elle aime à s'entourer, il y a quelque chose de très exotique. Finalement, c'est une illienne, cette Joséphine.
Alors, ce qui est exotique, oui, c'est la façon dont elle aménage les jardins de Malmaison, puisqu'elle en fait un des grands jardins d'acclimatation, comme on dirait aujourd'hui, ou d'essai, en France, au tout début du 19e siècle. Et du reste, ce jardin a considérablement marqué les contemporains. Elle, dans son décor, c'est une femme qui lance aussi une mode très impressionnante, qui est celle d'un néoclassicisme revisité par un goût très archéologique.
C'était deux enfants insulaires, finalement, qui s'épousaient, on peut le dire.
Mais oui, en effet.
Charles-Napoléon.
Oui, je pense que c'est effectivement la seule chose qu'ils avaient réellement de commun, d'être nés l'un et l'autre dans des îles lointaines, loin de Paris. Et sans doute a-t-il fallu que la Révolution française marque leur destin, à l'un comme à l'autre, pour qu'ils se retrouvent ensemble. Car que pouvait faire une fille de riche béquet, donc de 6 ans de moins, que son compagnon, à côté d'un fils, finalement, d'une petite aristocratie corse, qui venait d'être nommé général de la Révolution. Il fallait vraiment que leur destin soit bousculé, basculé par les événements de 89.
Ils avaient déjà pas mal vécu, tous les deux, au moment où ils se...
Alors, sur le plan affectif, l'une beaucoup plus que l'autre, car d'une certaine manière, le général Bonaparte, lorsqu'il rencontre donc Joséphine, sortait d'une histoire amoureuse avec Désiré Clary, qu'il venait d'arrêter, ou qu'il n'avait d'ailleurs pas totalement arrêté au moment où il l'a rencontré, et il se présentait comme un homme finalement relativement peu pourvu d'expérience en ces matières et relativement misogyne dans ses écrits, hein, refusant l'amour, et puis voilà qu'il va tomber dans l'amour. C'est naturellement ce qui se passe toujours en pareille circonstance. Et donc c'est le destin de ces deux personnages qui sont à bien des égards complémentaires qui va marquer l'histoire de France.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et marquer nos imaginaires à tous. Finalement, ces deux personnages sont aussi amoureux l'un que l'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand amour partagé, Bernard Chevalier ?
Partagé, oui, mais pas au même moment. C'est là où est le problème, c'est que Joséphine n'a pas compris du tout l'amour que Napoléon lui portait en lui écrivant ces lettres enflammées que vous connaissez.
Oui, bien sûr. Et c'est les lettres de la campagne d'Italie, notamment.
Oui, ces lettres auxquelles elle répondait de temps en temps, parfois mélangeant le tu et le vous, ce qui mettait Napoléon hors de lui, puisque dans une réponse, tu lui écris « vous toi-même ». Je trouve ça extraordinaire. Et finalement, après la liaison avec Hippolyte Charles, à la fin de 1799, elle a mis fin à cette liaison, et là, elle a vraiment compris.
Parce qu'elle l'a trompée au début, quand même.
Oui, enfin, on n'en est pas vraiment certain. Vous savez, dans ce genre de situation, faut vraiment être l'acteur pour savoir ce que l'on fait. Et vraisemblablement, avec Hippolyte Charles, qui était un peu le grand amour de sa vie, qui l'amusait, elle sortait avec lui partout, au théâtre, elle l'a emmené en Italie aussi. Et Napoléon s'est senti véritablement trompé par cette liaison de Joséphine. Mais après, elle a vraiment compris quel était son rôle. Et à partir de 1799, devenue première dame de France sous le titre peu gracieux de consulesse, elle s'est appliquée vraiment vraiment à le remplir du mieux qu'elle a pu, et personne n'a trouvé à redire quoi que ce soit sur l'impératrice Joséphine.
Le titre de consulesse ne lui plaisait pas, mais le statut lui plaisait mieux, je crois, que celui d'impératrice, qui était plus difficile peut-être à porter.
Oui, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure le divorce. Je crois que le divorce est préparé d'une certaine manière de longue date. Car ainsi que vient de le dire Bernard Chevalier, donc lorsqu'il rentre de la campagne d'Égypte, il apprend son infortune, il lui pardonne, mais d'une certaine manière, leur amour est rompu quelque part. Et alors, on trouve là la trace de cette préparation dans le code civil lui-même. Car il y a un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits par le premier consul, d'ailleurs peut-être à la Malmaison même, hein, puisqu'une partie du code civil a été composée et arbitrée à la Malmaison, qui introduisait donc une disposition tout à fait nouvelle dans le code civil, qui est le divorce, et en particulier le divorce par consentement mutuel. Et là, il est évident qu'il s'est prononcé contre Portalis, contre une majorité du Conseil d'État, en considérant son propre avenir, disons, hein, et sa propre situation familiale en tout cas.
Alors cette Malmaison qui va devenir le point d'ancrage de leur amour, de leur couple, de leur vie, nous y venons dans un instant. Nous allons voir dans quelles circonstances, notamment, elle a été achetée par le premier consul, cette Malmaison.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie du prince Charles-Napoléon et ceux que vous avez qualifiés être les deux piliers de la Malmaison, oui. Franck, Bernard Chevalier et Amaury Lefébure.
Alors justement, Bernard Chevalier, expliquez-nous, racontez-nous comment cette Malmaison est devenue la demeure de Joséphine. C'est elle qui l'a trouvée, choisie ?
Déjà très tôt, puisque en mai 98, avant de partir pour la campagne d'Égypte, elle fait visiter...
Donc on est en 1798,
oui. Elle emmène Napoléon visiter Malmaison avec l'intention de l'acheter. Napoléon trouve la somme trop importante, et avant de partir, très prudemment, confie sa fortune non pas à son épouse, mais à son frère Joseph, avec pour mission d'acheter le château de Ris, donc Ris-Orangis au sud de Paris, et des terres en Bourgogne. Bon, Joseph ne fait pas grand-chose, les affaires n'avancent pas. Joséphine n'a plus de nouvelles du mari depuis que les communications sont coupées avec l'Égypte, si bien qu'elle prend l'avantage, et en avril 99, alors que le mari est devant le siège de Jaffa, et ça personne ne le sait, elle achète Malmaison, mais elle n'a pas un sou. Donc que fait-elle ? Elle emprunte, c'est une habitude chez elle, et elle emprunte 15 000 francs au régisseur des vendeurs, 15 000 francs qui seront remboursés seulement après le divorce en 1810 avec les intérêts. Et quand Napoléon rentre d'Égypte, eh bien le voilà propriétaire d'une demeure près de Paris, à mi-chemin entre Saint-Germain et Paris.
Mais ce que disait le prince Charles il y a 5 minutes pendant la publicité, là, c'est qu'au moment de l'achat de la Malmaison, elle vit avec son amant précisément. Hein, c'est...
Les témoignages sur ce point sont formels, il est présent à ses côtés jusqu'au retour.
C'est assez stupéfiant cette histoire. Alors, le gros avantage de Malmaison, c'est que ça se trouve tout près de Paris et que lorsque, après le coup d'État, Napoléon devient premier consul, pour lui c'est très pratique. Il est très rapidement du cœur de Paris à Malmaison. Il faut combien de temps ? Il faut moins d'une demi-heure ?
Il faut moins d'une demi-heure.
À l'époque ?
À l'époque, mais
aujourd'hui c'est un quart d'heure.
Aujourd'hui,
quand il n'y a pas d'embouteillage.
C'est un quart d'heure quand il n'y a pas d'embouteillage. C'est 13 minutes par le RER A depuis l'étoile jusqu'à la station de Rueil-Malmaison, station du RER. Et à l'époque, c'était une demi-heure en voiture à cheval.
Et donc, ils y sont souvent, évidemment.
Alors, ils y sont très souvent. Pendant les années 1801-1802, Malmaison est à ce moment-là quasiment la résidence principale du couple Bonaparte-Joséphine, même si la résidence principale officielle est le Palais des Tuileries à Paris. Malmaison est leur seconde résidence où ils passent plusieurs jours par semaine. À l'époque, on est encore dans le calendrier républicain. Ils passent les décadis, on dirait aujourd'hui les week-ends. Enfin, c'est un terme impropre. Et ils réunissent là à la fois un embryon d'une future cour qui est très jeune. Hein. Il faut imaginer, ils ont tous une trentaine d'années. Le travail n'est jamais loin, cependant. Oui. Bonaparte demande qu'on aménage une salle pour réunir le conseil qui va se réunir en l'espace de moins de 2 ans, plus de 160 fois.
Tous les mercredis.
Et d'où des décisions très importantes sont prises pour la France.
L'ancêtre du Conseil des ministres, en l'occurrence.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que, je l'ai laissé entendre moi tout à l'heure dans le récit, Napoléon Bonaparte, à l'époque, il n'est pas encore tout à fait l'empereur Napoléon Ier, n'a pas un très grand sens de l'art de vivre, disons, ça n'est pas son domaine. Et elle, Joséphine va être là justement pour donner à cette cour eh bien son cadre, ses plaisirs. Elle est en quelque sorte la maîtresse de maison.
Elle est la maîtresse de maison. C'est vrai qu'elle donne un style que tous ses contemporains ont remarqué. Et quand elle accède au trône, quand elle devient impératrice, eh bien, elle est une souveraine comme peu de pays en ont connu. Et tout le monde va admirer, du reste, cette aisance qu'elle a, et surtout qu'elle sait répandre autour d'elle, ce qui est très important dans son rôle de communication, comme on dirait aujourd'hui.
Le château lui-même, la demeure est totalement transformée, bien entendu, pour en faire quand même une demeure digne des hôtes. Le parc également, et on voit Joséphine se livrer à toutes sortes d'expériences de botanique notamment. Bernard Chevalier.
Oui, alors Joséphine évidemment est passionnée par la botanique. Elle est une connaisseuse, comme on dit à l'époque. Elle écrit presque d'égal à égal au professeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et c'est près de 200 plantes nouvelles qui ont fleuri pour la première fois en France à Malmaison. Donc comme le phlox, le camélia, le dahlia, des plantes absolument ordinaires pour
nous.
On
les acclimatait dans les serres de Malmaison.
Dans les serres de Malmaison. Et les botanistes ont donné le nom de l'impératrice à plusieurs plantes. Elle acclimatait également des animaux exotiques. Les premiers cygnes noirs que l'on ait vus en Europe sont arrivés à Malmaison directement en venant d'Australie. Donc c'est vraiment un laboratoire scientifique où elle développe des connaissances qui sont mises à disposition de tout le monde.
Je crois que si un adjectif peut être accolé à la personnalité de l'impératrice Joséphine, c'est celui d'aimable. Partout, dès qu'elle est là, on a l'impression d'une espèce de fluidité, tout va bien. Est-ce qu'elle a contribué, Monseigneur, à créer autour de Napoléon une sorte d'atmosphère propice, non seulement au travail, mais aussi tout simplement à la direction des affaires?
Oui, certainement. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que elle lui apportait une forme de sécurité, même si leur amour n'était plus cet amour passionnel et charnel que l'on connaît donc après leur rencontre, il devient une union de personnalités extrêmement complémentaires et elle organise sa vie, elle lui apporte ce dont il a besoin pour gouverner tous les jours au quotidien. Et j'aime bien cette l'image de ce salon de travail donc qui est aménagé au rez-de-chaussée de la Malmaison, qui est relié par un escalier en colimaçon à la pièce où ils habitaient, de manière à ce qu'ils puissent la nuit descendre travailler à ses affaires.
On va avoir l'occasion de se rendre donc en septembre pas mal au château de Malmaison et d'une façon plus générale à Rueil-Malmaison à l'occasion de ce jubilé impérial dont vous êtes le directeur du comité scientifique, Bernard Chevalier. Ce sont toutes sortes de festivités, il va y avoir énormément d'événements organisés pendant toute cette semaine à Rueil-Malmaison.
Mais pendant ces trois jours, effectivement, la ville va vivre entièrement à l'heure napoléonienne avec des reconstituants, des bivouacs,
Il y aura 200 figurants professionnels habillés comme au Premier Empire, toutes sortes d'expositions. Expositions, bien entendu, des illuminations.
Des expositions, il va y avoir également des restaurants qui vont mettre à leur menu des repas inspirés des recettes du Premier Empire. Donc on va vraiment vivre à l'heure du Premier Empire à Rueil pendant trois jours.
Donc nous nous donnons rendez-vous à la mi-septembre, c'est pas la mi-septembre, c'est dès le 10 septembre, dès la rentrée, à Rueil-Malmaison pour ce jubilé impérial. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là et de nous avoir fait, d'avoir ressuscité, disons-le, la charmante impératrice Joséphine.
Merci.